tous. C'est bon, bonjour à tous. Bienvenue à chacun ce matin. C'est le Seigneur lui-même qui nous accueille. Nous sommes là rassemblés pour lui dire notre reconnaissance. Notre reconnaissance, c'est tout simplement dire merci pour sa bonté, mais c'est aussi reconnaître qui il est. Comme dans le psaume 100, « Gens du monde entier, acclamez le Seigneur, servez le Seigneur avec joie, présentez-vous à lui avec des cris joyeux. » Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance, dans la cour intérieure exprimez vos louanges, louez le Seigneur, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour dure toujours. De génération en génération, il reste fidèle. Son amour dure toujours, il reste fidèle. Dans ce psaume, comme partout dans la Bible, l'amour de Dieu, sa bienveillance, rime avec fidélité. Peut-être que vous n'avez pas trop envie ce matin, vous n'êtes pas très joyeux, pas trop envie de louer Dieu, parce que sa bonté semble s'être éloignée. Peut-être suite à des circonstances douloureuses, la perte d'un être cher, une maladie. Parfois, c'est très longtemps après dans la vie qu'on reconnaît la bonté de Dieu tout au long du chemin, sa présence dans le parcours. Mais que ce temps de culte ensemble nous aide, là où nous en sommes, à discerner cette bonté de Dieu. Nous poursuivons nos cultes de l'été, hein, en commun avec la paroisse protestante, et ce matin, nous accueillons Bernard Félix, pasteur à la retraite de l'église protestante de Genève, mais qui a servi à Mérin dans la paroisse protestante pendant 8 ans, il y a quelques années. Voilà. Et nous poursuivons notre méditation autour du livre de Ruth. Un récit dont les personnages principaux sont 2 femmes, pour lesquelles la présence de Dieu s'est manifestée à travers des trajectoires de vie assez compliquées. Nous prions. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous voulons te dire ensemble notre reconnaissance. Amen. Voilà, je vous propose de poursuivre cette louange à Dieu à travers le chant. Et merci à l'équipe de louange, à Jean-Christophe, Sylvie, Déborah et Jean-Pierre pour ce matin.
Chanter avec nous.
Nous relisons ce récit dans le chapitre 1 de Ruth. Oui, les enfants. Je les ai oubliés, c'est grave. Hein? Alors, vous pouvez aller avec, je ne sais pas qui les prend en charge aujourd'hui. D'accord, c'est toi. Merci beaucoup. Alors, vous laisse descendre. Et... Nous voulons aussi les remettre dans la prière. Seigneur, c'est vrai que ces enfants font partie de la communauté. Merci pour tous ceux qui les prennent en charge le dimanche, pour qu'ils participent à notre vie culturelle, qu'ils découvrent aussi à leur niveau quelle est ta bonté pour eux. Nous te prions pour ce temps, pour les enfants ce matin. Amen. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec, le mari de Noémie, mourut. Et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites, L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors Noémie se leva, elle et ses 2 belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elles allèrent sur le chemin du retour vers le pays de Juda. Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme dans la maison de son mari. » Puis elle les embrassa. Elles élevèrent leur voix et se mirent à pleurer abondamment. Elles lui dirent, « Non, nous t'accompagnons. Avec toi, nous retournerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit, « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. » « Rentrez chez vous, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et même si je disais « il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même, je serai un homme qui me donnera des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. » Les 2 belles-filles élevèrent la voix et pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère avant de la quitter, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi, prends exemple sur ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « N'insiste pas, pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Je le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister. Et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Elle leur déclara, « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, mais appelez-moi Mara l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines. Le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie alors que le Seigneur s'est tourné contre moi et que le Dieu souverain a causé mon malheur? » C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Et ils arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole et à ce que Bernard a à nous partager ce matin. Amen.
D'abord, un petit bonjour. Donc, je m'appelle Bernard, comme Sylvie vient de le dire. Je suis pasteur à la retraite, comme il l'a dit aussi. J'étais heureux d'être amérin pendant 8 ans, depuis 2003-2004, par là. Et puis, je fais un remplacement, puisque Philippe Gola, pasteur amérin, est reparti aux États-Unis au temps de Noël. Et ceux qui, parmi vous, me connaissent, savent que j'aime énormément laisser résonner les mots de la Bible. Les autres mots aussi, pour faire des fois des jeux, dans le sens où, pour moi, les mots parlent. En fait, assez souvent, peut-être qu'on ne se rend pas bien compte du poids des mots qu'on emploie. Les mots sont parfois pour nous anodins, on crie une colère, on crie une joie. Et si on les laisse parler, ces mots-là, c'est très très impressionnant de voir tout ce qu'ils sont capables de nous raconter. Alors, ce que je vais essayer ce matin, c'est de vous raconter ce que j'entends dans l'histoire du livre de Ruth. D'abord, ce qu'on sait, c'est que ce livre a été écrit environ 250 ans avant Jésus. Je ne dis pas raconté, je dis écrit. Et puis pas écrit n'importe comment. Écrit avec le langage du conte, avec le langage du raconte. Et non pas avec des fiches d'état civil où on va essayer de savoir qui était qui exactement. On laisse parler les mots. Donc environ 900 000 ans après les événements qu'on raconte, puisqu'on les situe il y a très 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 longtemps, hein, si vous avez entendu, Sylvain a commencé par dire c'était du temps où les juges jugeaient. Alors, en français aujourd'hui, c'était il y a très longtemps où ceci ou cela se passait en Suisse. Donc, quelque part, on nous fait entrer dans un langage, dans un récit où des mots vont être peut-être parlants. Ici, un peu, beaucoup. Il n'y a pas besoin que tous les mots parlent. Quelques-uns vont parler et vont nous dire quelque chose. Donc, c'était du temps où les juges jugeaient. Sous-entendu, aujourd'hui, il n'y a plus de juges et ils ne jugent plus. C'était de ce temps-là. Et puis, le temps pendant lequel on écrit le livre de Ruth est un temps assez intéressant dans le sens où c'est très, très compliqué de savoir quelle identité on a. Il y a un gros mélange d'identités. On est devant une multiplicité d'avis, d'opinions, de racines dans un endroit pas très grand. Judas, c'est une petite partie d'Israël-Palestine d'aujourd'hui. Judas, c'est un drôle de nom aussi, si on l'écoute. C'est un nom qui vient de ce qu'on appelle Ancien Testament ou Premier Testament, ou on pourrait aussi dire c'est la Bible de Jésus, parce que lui, il n'avait que ça. Enfin, il avait ça, pas que. Et dans la Bible, le mot Judas est fait avec les noms, les lettres du nom de Dieu qu'on ne prononce pas. Hein, c'est comme dans Harry Potter. Il y a un nom qu'on ne prononce pas parce que, voilà. Dans la Bible, Dieu a un nom qu'on ne prononce pas. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce que c'est tellement important de le respecter qu'on va, quand on voit ce nom-là, on va dire autre chose. On va dire Seigneur, on va dire Éternel. Hein. Mais on sait que derrière Seigneur ou derrière Éternel, il y a son nom qu'on ne va pas mal prononcer. Alors, le mot Judas, il est composé avec le nom qu'on ne prononce pas, plus au milieu, une lettre qui veut dire la porte. C'est comme si le mot de Judas voulait dire « c'est une porte d'entrée vers le nom de Dieu qu'on ne prononce pas ». Ce n'est pas juste un territoire. Je discutais avec Jérémy à la cuisine quand il aidait Denise à préparer tout pour la Sainte-Cène. Et puis, je disais, ben oui, il y a des fois des mots comme ça qui sont extraordinaires, mais même si on ne les mesure pas tout de suite. Même si on ne sait pas toujours. Je lui demandais, ça veut dire quoi, Jérémy ? Il disait, je ne sais pas. Puis moi, je ne sais plus maintenant. Il faudra que j'aille chercher. Mais souvent, les noms veulent dire quelque chose. Donc, le livre de Ruth est écrit dans un temps où c'est très, très difficile de savoir. Il y a de multiples identités. Il y en a qui nous plaisent, il y en a qui ne nous plaisent pas. En fait, c'est assez semblable à ce que vit la France aujourd'hui, où en France, il faut voter. Et c'est très difficile de savoir pour qui on peut voter, parce que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas un vrai choix. On ne peut pas choisir entre quelque chose qui nous plaît vraiment et quelque chose qui ne nous plaît pas. Enfin, souvent, on a quelque chose qui ne nous plaît pas du tout et quelque chose qui ne nous plaît pas beaucoup mieux. C'est très compliqué. Alors, c'est un temps où plusieurs communautés se replient sur elles-mêmes, au moment où on écrit le livre de Ruth. Plusieurs communautés se disent, ceux-ci, on n'est pas vraiment d'accord, alors on ne parle plus. Et puis 10 ans après, quand on ne leur parle plus, on ne les connaît plus. Puis 20 ans après, c'est même des ennemis. Puis quand on ne se parle plus, 30 ans après, s'ils leur rêvent quelque chose, ce n'est pas bien grave. Parce que nous, au moins, on a gardé notre identité. Socialiste, enfin je prends des mots d'aujourd'hui, chrétienne, écolo, enfin, hein, tout un tas de petits groupes se sont recentrés sur eux-mêmes, dans ce petit Judas. C'est quoi ? 50 000 habitants. En campagne, beaucoup. Et c'est là que, pour lutter contre la politique de on ne se parle plus, on est les meilleurs, on veut tout le pouvoir, ou bien on vous ignore, faites ce que vous voulez, mais de toute façon on n'y croit pas, parce qu'on se replie, on a besoin de savoir un peu vers quoi on veut aller dans le monde, et dans la vie, et dans la foi, et dans la religion, eh bien, les gens qui ont une autre vision, une vision d'un Dieu qui aime sans condition, ne savent plus que faire. Lutter politiquement, ils perdent. S'ils vont s'imposer, ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. C'est un contre-message. Alors, ils décident de raconter l'histoire de Ruth. Pour que, à travers les mots de ce « raconte », quelque chose de la bonté de Dieu puisse être dite, mais, comment je dirais ça, pas de front, pas avec une attaque frontale de « vous êtes des cons, on ne vous aime pas, on n'est pas d'accord avec vous, tout ce que vous voulez est mauvais », ils vont raconter l'histoire de Ruth. Et maintenant, j'ai besoin de toi, Denise, pour la relire avec quelques mots qui ont du sens.
On prend à partir du verset 14. Elle sanglote encore, puis Orpa, c'est-à-dire tourne-nuque, embrasse sa belle-mère. Mais Ruth, qui veut dire amie bonté, s'attache à elle, littéralement colle à sa belle-mère.
Comme ça, hein? Si t'es ma belle-mère, je colle.
T'es trop près là. Noémie, ma douce, dit alors, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Le mot Dieu qui veut dire Elohim, Dieu créateur. Retourne-toi aussi comme ta belle-sœur. Ruth, amie bonté, dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu vas, je vais. Là où tu passes la nuit, je passe la nuit. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu, Elohim, Dieu créateur, est mon Dieu, Elohim, Dieu créateur. Là où tu meurs, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur, ici, les 4 lettres du nom de Dieu qu'on ne prononce pas par respect, me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, ma douce, la voyant résolue à aller avec elle, n'insiste plus. Elles marchent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem, la maison du pain. Lorsqu'elles arrivent à Bethléem, la maison du pain, l'émotion, littéralement confusion, panique, gagne toute la ville. Les femmes disent « Est-ce Noémie, ma douce ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas ma douce, appelez-moi Mara, pleine d'amertume, car El Shaddai, le puissant en force, est ou puissant en tendresse, me rend la vie beaucoup amère. J'étais comblée. Le Seigneur, les quatre lettres de son nom qu'on ne prononce pas, me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie, ma douce ? Le Seigneur, les quatre lettres qu'on ne prononce pas, témoigne contre moi. El Shaddai, le puissant en force et ou en tendresse, me fait du mal. Ainsi, Noémie, ma douce, revient, et avec elle sa belle-fille, Ruth, amie bonté, la Moabite, la fille du père incestueux qui venait du pays de Moab, le pays de l'inceste père-fille. Elles arrivent à Bethléem, la maison du pain, au début de la moisson des orges.
Merci. Ouais, tu peux me la laisser ? Merci. Quand on entend, si on avait entendu cette histoire dans les moments où elle a été écrite, comme un raconte, il y a plein de sens qui font qu'on peut se dire, tiens, on parle aussi un petit peu de maintenant. On ne parle pas seulement d'avant. Des fois, je suis ma douce, puis des fois, je suis amère. Des fois, je ne comprends pas pourquoi dans la maison du pain, il n'y a plus de pain. Des fois, dans ma vie, la bonté, je la ressens et je peux en transmettre. Et des fois, non, j'ai plutôt envie de tourner le dos à ce qui est en train de m'arriver. Donc, on est continuellement baladé, mais comme dans une belle histoire, hein, une histoire. On est baladé et invité à se demander, en fait, on est où ? On est qui ? À quoi ça sert cette histoire ? Vers quoi elle va arriver ? Alors, en deux mots très courts, en quatre chapitres, nous on l'a découpé en huit histoires pour l'été, on va arriver à quelque chose de complètement ébouriffant. C'est la toute fin, de découvrir que sans Ruth, il n'y aurait jamais eu David, parce que Ruth est l'arrière-grand-mère, et que sans Ruth, s'il n'y aurait jamais eu David, il n'y aurait jamais eu de grand roi, il n'y aurait jamais eu celui qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du Messie, de Jésus. C'est donc très bouleversant de se rendre compte par une simple histoire que une arrière-arrière-arrière-grand-mère a joué un rôle clé. Dans un temps, on dit, tout ce qui vient de Moab, franchement, ça ne vaut pas la peine. C'est plus que nul. Alors peut-être que quand vous entendez Moab, ça vous dit juste quelque chose. Alors deux choses. Un, géographiquement, Moab, c'est des collines à 800, 950, 1000 mètres d'altitude. Et en face, à 50 km, vous avez d'autres collines aussi à 850, 900 mètres d'altitude, c'est Juda. C'est en face. Entre deux, il y a un trou de plus de 1000 mètres. C'est la mer Morte. Mais c'est en face, c'est des cousins. Mais toujours, quand on est d'un côté, on dit ceux de l'autre côté. Quand on est là, on dit ceux de l'autre côté. parfois on s'apprécie et on sait qu'on est cousin, et parfois on se déteste parce qu'on sait qu'on est cousin, mais un peu différent. Et dans le monde de la Bible, Moab, ça veut vraiment dire le pays de Bougnoul, où franchement, au niveau de la sexualité, c'est pas top. Parce qu'il y a des incestes, et il laisse faire. C'est comme ça, quand on dit Moab, qu'on entend. Et vous voyez, Ruth, elle vient de Moab. Et sans Ruth, la Moabite, il n'y aurait pas eu David. Alors, c'est une invite à se dire, peut-être qu'on peut regarder les gens pour ce qu'ils sont et non pas de l'étiquette qu'on leur a donnée ou de là où on pense qu'ils viennent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on prononce plusieurs fois le nom de Dieu dans cette histoire, mais pas toujours le même nom. Et vous, quand vous dites Dieu, non, quand vous pensez Dieu, vous dites quel mot ? Seigneur, éternel, Dieu tout-puissant, Dieu extraordinairement aimant, papa, vous dites quoi ? C'est intéressant de, pendant un petit moment, de se demander, en fait, quand je souhaite m'adresser à Dieu, quel nom j'emploie pour lui parler ? Alors, ça reste le même, mais ce n'est pas la même chose si je dis de moi, je m'appelle Bernard, si je dis, je suis le pasteur Félix, si je dis, je suis le papa de quatre filles, si je, hein, ça reste moi, mais je donne un autre sens, une autre importance au moment de la rencontre. Et dans le petit bout de chapitre qu'on vient de lire, il y a trois mots différents pour dire Dieu. Et ce n'est pas inintéressant. Le premier, ton Dieu sera mon Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu de la terre, c'est le Dieu de tout le monde. Vous rencontrez plein de gens sur terre, ici à Genève aussi, enfin dans la région, hein, qui disent, oh moi je ne sais pas, mais je crois volontiers qu'il y a quelque chose. On pourrait dire c'est Elohim. Hein, parce que c'est quand même pas que Dieu. Ou bien d'autres disent, ah non, non, moi je crois vraiment à celui qui a créé la terre, les cieux et tout ça. C'est aussi Elohim. Donc il y a plusieurs manières de se représenter qui est Elohim. Mais dans le monde de la Bible, c'est le Dieu créateur pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas en lui. Un autre mot, c'est ces quatre lettres qu'on ne prononce pas, qui viennent du verbe « être ». C'est vachement polémique, ça veut dire que quelque part les autres dieux ne sont pas, puisque lui, il est, E-S-T. Mais en même temps, ce nom-là, on est invité à ne pas le prononcer, pour ne pas le prononcer mal. Et alors, en hébreu, aujourd'hui, dans la rue, les gens, ils disent pas ces quatre lettres, enfin, ceux qui sont respectueux, ils disent le nom, the name, le nom. Enfin, ils disent Hachem, hein, le nom. Et puis quand ils prient, ben, ils disent Adonai, ça veut dire mon Seigneur. Et quand ça, on sait, c'est un code, hein, on sait que quand on dit ça, ou l'Éternel, c'est à ce Dieu-là qu'on parle ou qu'on écoute. Et ce qui est intéressant là, dans cette histoire de Ruth, c'est que si Ruth dit « Je te suis là où il y a Dieu », ton Dieu sera le mien, ton peuple le mien. En fait, c'est le Dieu de tout le monde. Et à un moment donné, intervient ces quatre lettres du verbe être. Et ça intervient deux fois. Et deux fois qui font réfléchir l'auditoire. Parce que normalement, ce Dieu-là, qui est, il aime sans condition. On fait une bêtise, il dit c'est une bêtise, mais je t'aime. On fait quelque chose de très grave, il dit c'est très grave, mais je t'aime. Tu peux toujours revenir. Ces quatre lettres, c'est une manière de dire un Dieu qui est sans condition pour nous accepter. Il accepte même de mourir à la place des fautes qu'on a faites. C'est ce nom-là dit quelque chose de cet amour inconditionnel. Et puis, pour compliquer, hein, pour montrer quelque part que le temps de Ruth et son histoire, c'est un temps compliqué, on ne sait pas très bien quoi penser. Il y a encore un troisième mot pour dire Dieu dans cette toute petite histoire. C'est comme si, au début, Ruth et Naomi, qui sont deux femmes super, Orpa aussi d'ailleurs, ce n'est pas une méchante, simplement, elle, à un moment donné, elle choisit autre chose. Disent, mais, oui, Dieu, le Dieu sur la terre, il existe. Mais maintenant, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de paix. J'avais de la paix, j'en ai plus. J'avais de l'argent, j'en ai plus. J'avais des enfants, j'en ai plus. J'avais un mari, j'en ai plus. J'avais une maison, j'en ai plus. J'ai tout perdu, dit Naomi. Alors franchement, ça sert à quoi de m'appeler ma douce alors que je suis pleine d'amertume ? Et puis, à un autre moment, quand Naomi et Ruth discutent, hein, donc ma douce, amère et bonté, amie, arrive le nom, il est mentionné deux fois, le nom d'un Dieu qui aime inconditionnellement. Mais comme ce n'est pas si facile à croire et à vivre, vient un troisième nom de Dieu qui est El Shaddai. Alors je sais que dans pas mal de chants et de textes, on dit El Shaddai. Et alors c'est très très intéressant et compliqué, parce que El Shaddai veut dire deux choses complètement contradictoires. Donc vous devez choisir quel El Shaddai vous allez chanter, prier, avec lequel vous allez discuter. Un sens, c'est Dieu Tout-Puissant qui est capable d'utiliser sa force, ses muscles, sa puissance pour obtenir ce qu'il veut. Et là, Naomi dit, il m'a tout pris, il me punit. Est-ce que par moment, vous aussi, vous vous dites, un Dieu qui punit, ça existe ? Ou bien vous êtes de ces parents qui disent, mais non, mon petit Jérémy, je t'aime et tout va bien ? Non, je blague, pardon. Ou bien est-ce que vous pensez que de toute façon la punition doit être donnée, ou bien vous pensez que non, non, c'est le pardon et l'amour inconditionnel qui doit de toute façon être donné. Eh bien le nom El Shaddai veut dire les deux choses. Et ça arrive souvent en hébreu. Les trois mêmes lettres, puisque tout fonctionne avec trois lettres, enfin il y a quelques rares exceptions à deux et quatre, hein, mais 95 fois sur 100 c'est avec trois lettres. Les trois lettres de Shaddai veulent dire soit le tout-puissant, très costaud, très fort, soit les seins de la femme dans tout ce qu'elles peuvent donner de meilleur, la tendresse, la chaleur, la nourriture, l'amour inconditionnel. Vous devez choisir. Et ce qui est bien pour moi, enfin intéressant dans le conte, puisqu'on est au début, on n'a pas fini. Donc on n'a pas toute la réponse. On a cette dialectique compliquée pour se dire, mais dans le fond, dans quel Dieu je vais croire ? Comment je vais reconstruire ma vie ? Puisque j'ai tout perdu. Et je crois que je suis arrivé un peu au bout, parce que, je crois que ça fait déjà longtemps. Mais ce que je voulais juste dire comme ça, c'est, je vous encourage à, quand vous lirez la suite de ce livre de Ruth, à aller regarder, non pas besoin de regarder l'hébreu, mais allez regarder 2, 3, 4 autres traductions. Puis quand vous verrez des mots qui ne sont pas tout à fait les mêmes, vous vous direz, tiens, là, il y a un truc intéressant. Peut-être que ça vaut la peine que je réouvre quelque chose. Et si ce livre de Ruth a été écrit, c'était pour réouvrir quelque chose qui était un peu enfermé dans des replis identitaires. Jusqu'à découvrir que Dieu est bon immensément et sans condition. Mais ça, c'est le chapitre 4. Alors, je vous laisse le reste de l'été pour la suite.
Je vous propose de laisser résonner un petit peu toutes ces interrogations. Dans un moment de silence ou de prière libre, selon que vous avez envie de vous exprimer ou de témoigner, dans votre parcours de vie.
Merci Seigneur pour cette réflexion sur l'identité, sur les mots. Et merci pour la sécurité que tu nous donnes, la confiance qu'on peut avoir en toi, notre identité qui est protégée en toi, Seigneur. C'est vraiment merveilleux de se représenter ça et je te remercie de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci aussi pour cette cousine Moabite qu'on aime ou qu'on aime moins. Mais Seigneur, toi, tu la rencontres aussi puisqu'elle a choisi de vivre avec toi. Seigneur, merci parce que tu laisses cette porte ouverte, Seigneur, à chaque personne, quelle que soit son éthique, quelle que soit son parti politique, quelle que soit son origine. Et toi, Seigneur, tu peux rejoindre chacun d'entre nous. Et Seigneur, ça, c'est une source d'espérance pour eux.
Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour notre monde actuel où des identités s'affrontent, des identités provoquent des guerres. Aide-nous, en tant que tes disciples, d'être marqués par ton amour, ta bonté qui va au-delà de tous ces clivages qui sont présents dans notre monde. Amen. Je propose d'entrer maintenant dans un temps de Sainte-Cène, ce mémorial de ce moment qui est vraiment la manifestation suprême de la bonté de Dieu, de son amour inconditionnel, ce lieu où nous recevons le pardon, qui nous invite à pardonner à notre tour, qui nous permet de pardonner à notre tour.
Dans L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.
Depuis le début du temps de l'Église, il y a plusieurs manières de célébrer, de faire les gestes pendant la lecture et de les faire aussi ensuite. Alors aujourd'hui, on va faire les deux. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur.
Seigneur, nous voici ensemble pour partager ce pain et ce vin, pour recevoir ton pardon et nous laisser transformer par ton esprit et par ton amour. Nous passerons le pain et le vin dans les chaises. Au milieu des plateaux, il y a des jus de raisin, et autour, c'est dans les gobelets de couleur, et autour, c'est du vin. Et ceux qui désirent prendre la coupe, faites simplement signe. Voilà. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent nous aider pour la distribution ? Nous concluons ce temps de Sainte-Cène par la prière que le Seigneur nous a apprise.
Notre Père,
qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voulons maintenant passer au temps d'offrande en chantant le chant « Le Seigneur règne ». Seigneur, nous te remettons cette offrande. Nous nous remettons aussi à toi parce que tu prends soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Nous te prions pour que une gestion sage de nos finances et de celles de l'Église. Amen. Quelques annonces. Voilà, alors juste après le culte, il y a possibilité de partager un café et d'un temps de prière, si certains souhaitent partager un temps de prière près de l'estrade, ici à l'issue du culte. Une annonce qui a été complètement oubliée dans les diapositives qui passent, c'est que demain, il y a Merin-les-Bains et la présence de l'Église évangélique. C'est bien ça, hein? Voilà, tu voudrais dire un mot? Ah ben alors voilà, on laisse l'animateur principal de Merin-les-Bains nous stimuler à être présent demain.
Je peux dire deux, trois choses aussi? Ou c'est toi qui fais?
Non, ça je fais.
D'accord. Ah oui, Merin-les-Bains, c'est demain, donc c'est derrière le centre commercial de Merin-Cité, donc vous allez de l'autre côté, c'est très convivial. Donc nous serons présents en tant qu'église évangélique de Merin, il y a à peu près 25 bénévoles pour vous accueillir demain, donc ça va vraiment être cool. Ça commencera dès 14h30, disons 15h pour les enfants, avec des bulles géantes qu'on a exercées d'ailleurs il y a un ou deux dimanches derniers, toute une animation pour les enfants. À 19h, il y a la raclette, donc raclette, ne l'oubliez pas. Et ensuite, nous verrons un film, donc c'est un ciné transat, donc assis dans des transats, bien à l'aise, avec un petit plaid s'il fait un peu frais. Donc il y aura le film, un très beau film, Écrire pour exister. Donc je vous encourage vraiment à nous rejoindre demain derrière le centre commercial, donc pour Merin-les-Bains. Merci beaucoup.
Je suppose que la raclette, c'est avec le four de Michel Cretenny. Voilà, qui est de sa fabrication et qui est assez extraordinaire. Voilà. Dimanche prochain, culte au CEPOM à 10h, au centre paroissial œcuménique, sur la place, là, à côté du, tout près du centre commercial. Et c'est Philippe Anchaud qui assurera la prédication parce que Mélina Vogt, pour des raisons médicales, ne peut pas assumer ce dimanche-là. Voilà. Les grillades estivales sont donc tous les 15 jours et vous avez, je crois, vu des prospectus sur vos chaises. Et vous pouvez inviter des voisins. Hein, donc c'est mercredi dans 10 jours. Voilà. Et c'est très sympa. Mercredi dernier, il y avait du monde. Hein. D'abord, on n'y croyait pas parce que le ton était un peu maussade, mais finalement, il y avait beaucoup de monde et c'était très sympa. Donc, venez nombreux, invitez vos amis. Et dernière chose que je mets en avant par oral, c'est que le culte de rentrée, qui aura lieu le 25 août, on aura un repas communautaire avec barbecue, pour une fois. Chacun amène de quoi manger, partager. Le grill, les tables seront dehors. Puis si jamais il fait un peu mauvais temps, on peut toujours se rabattre à l'intérieur. Voilà, pour les événements plus lointains, je laisserai... Alors, oui, ah, tu voulais dire qu'il reste des quarts d'heure? Alors, je te dis...
Donc il reste des quarts d'heure pour l'essentiel. Le thème, donc, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Il y a beaucoup de témoignages d'athlètes chrétiens. Il y a aussi un témoignage de Guy Parmelin, donc notre conseiller fédéral. Donc c'est des exemplaires. Il y en a plusieurs sur les tables. C'est à distribuer à vos amis que vous sentez qui sont prêts à accueillir justement un témoignage de ces athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques ou qui sont allés aux Jeux Olympiques des années précédentes. Donc c'est un très beau journal et c'est vrai que le témoignage de Guy Parmelin est aussi très encourageant pour nous qui sommes chrétiens. Alors prenez-les chez vous et distribuez-les où vous sentez que c'est bien de le faire.
Voilà, pour les annonces plus lointaines, je laisserai les diapositives. J'invite maintenant Bernard pour nous apporter une parole de bénédiction finale.
J'aime beaucoup le mot bénédiction parce que c'est bien plus que ce que le français nous dit, c'est pas seulement des mots. Le mot bénir dans le monde de la Bible, c'est un acte aussi. Ça veut dire se mettre au service pour porter plus loin. Alors si au début du culte, nous bénissons Dieu, donc nous nous mettons à son service pour l'aider à faire son travail de Dieu, on va dire ça comme ça, à la fin du culte, c'est lui qui nous bénit. Il se met à notre service pour qu'on puisse être porté plus loin aujourd'hui et les jours suivants. Recevons la bénédiction de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous aujourd'hui, demain, tous les jours. Il est celui sur notre chemin de vie qui nous raconte sa bonté inconditionnelle. Avec Ruth. Amen.